Voilà, Gilles, on va reprendre. Peut-être que pour reprendre, ça serait bien que tu commentes encore ce texte, cette différence entre déité et divinité. Tu as fait quelques recherches pendant la pause. Je te laisse la
Oui,
parole.
exact, merci. Alors, j'ai vérifié les termes utilisés dans Colossiens 2,9 et puis Romains 1,20. Et puis, en réalité, c'est le lexique Bidag, c'est probablement le lexique qui a le plus d'autorité actuellement pour ce qui est du sens lexical et puis des différents champs sémantiques des termes grecs. Eh bien, pour ce lexique, les deux termes utilisés se rapportent exactement au même mot, simplement qu'ils présentent une orthographe légèrement différente. Si je me rappelle de ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a un iota, teiotes ou teotes. Donc, c'est très, très semblable. C'est probablement exactement le même terme, mais ce qui est intéressant, c'est que enfin, les définitions données pour ces deux termes-là, c'est exactement la même. Ils nous parlent de la nature divine même de Dieu. Donc, mais tout ça pour dire que même si les deux passages parlent de Dieu lui-même, de sa propre nature, c'est pour nous, d'un point de vue théologique, d'un point de vue de la compréhension, pour qu'on puisse comprendre que ces passages-là, Romains 1:20, Colossiens 2:9, parle vraiment de la nature même de Dieu. Et le contexte est très, très clair là-dessus. Voilà. La question d'utiliser divin ou divinité ou déité, là, ça reste quand même une question de préférence pour la langue française.
Merci pour cet ajout intéressant. On a une question sur le verset 19 à 32. Alors, ça anticipe peut-être un peu qu'est-ce que tu vas nous dire, mais Paul utilise un temps passé. Celui qui nous pose la question nous dit: ceci me permet de dire que les faits ainsi décrits ont déjà eu lieu dans ou par le passé. Et puis deux questions: qui sont ces hommes finalement dont parle l'apôtre, ceux qui sont inexcusables notamment? Et puis ces faits sont-ils aussi reportés dans un livre de l'Ancien Testament, dans un livre historique?
En fait, ce que Paul fait ici, c'est contre l'humanité en général. Ce sont tous les hommes, et on peut très certainement dire les hommes de tous les âges, de toutes les époques. Ça a toujours été comme ça depuis le départ, depuis le péché, que le péché est entré dans le monde. Simplement que, voilà, d'une façon générale, ben, les hommes agissent de cette façon et sont constamment aussi livrés à eux-mêmes. Donc, c'est un état de choses qui transcende les époques et les âges. Et c'est pourquoi je soulignais que Paul pouvait le constater à sa propre époque, à lui. Donc, déjà en disant les hommes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ce sont des actions et des attitudes qu'il constatait tout autour de lui, comme exactement nous aujourd'hui. Et ce sera encore le cas aussi plus tard à venir. Donc, ce n'est pas forcément une génération de personnes dans une époque particulière dans l'Ancien Testament, c'est simplement le procès de toute l'humanité de façon générale qu'on voit ici.
Merci beaucoup Gilles aussi pour cette réponse. De cette manière-là, on a, je crois, été au travers des principales questions qui nous ont été posées. Continuez à le faire. On y répondra à la fin de la session, puis on va te laisser continuer l'étude verset par verset.
Merci beaucoup, Nathanaël. Nous sommes au verset 24 et jusqu'au verset 32, nous avons donc mentionné que nous assistons à une série en fait, de relations de cause à effet. Et on le voit par le rejet de Dieu de sa justice, la rétribution de Dieu, il livre les hommes, et puis le résultat de ces hommes livrés à eux-mêmes. Lisons le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, pour que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Les hommes ici ont été livrés. C'est la première de trois fois consécutive. Et ce verbe-là signifie littéralement abandonner quelqu'un au pouvoir de quelque chose. Donc Dieu abandonne les hommes au pouvoir du péché auquel eux-mêmes ils se sont déjà livrés. Mais là, maintenant, voilà, Dieu les livre à eux-mêmes en ce sens qu'il leur donne ce qu'ils veulent. Et puis, c'est un pouvoir destructeur qui les attend. Et c'est ce qu'on voit aussi pour toute génération qui rejette Dieu et qui est livrée à elle-même. Une société qui croit à la parole de Dieu ou qui croit à Dieu et qui honore Dieu dans une certaine mesure, évite de telles conséquences et peut même s'en trouver très, très bien par la suite, c'est-à-dire est béni par Dieu dans une mesure. Même si c'est une génération qui ne, ou un peuple ou une société qui ne croit pas nécessairement Dieu, mais du moins qui honore les principes de sa parole, on voit qu'il y a quand même une différence avec ceux qui rejettent totalement Dieu et puis sont livrés complètement à eux-mêmes. Alors, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, comme dit la version seconde. L'impureté dont on parle ici, c'est toute la corruption morale et en particulier l'impureté sexuelle. Et le péché sexuel est un jugement de Dieu aussi. C'est une attitude des hommes qui rejettent Dieu. Mais ça devient, à un moment donné, un jugement de Dieu qui livre l'homme à lui-même et à toutes sortes d'impuretés sexuelles. Et on voit tous les dérapages que ça cause par la suite. Je pense qu'on le voit dans notre culture moderne, dans nos sociétés d'aujourd'hui, où l'homme est livré à lui-même et la sexualité devient le point de mire de tout ce qu'on fait. Et puis, ça dégénère de tous côtés. Alors, on n'est pas surpris de voir ce qui se passe parce que l'homme rejette Dieu, il est livré à lui-même. Et quand il est livré à ses propres convoitises, à ses grands désirs-là qui animent son cœur pour tout ce qui est interdit, eh ben voilà, il n'y a rien d'autre que corruption et qui en ressort. Et c'est pourquoi ils vont agir de façon déshonorante. Ils vont traiter de manière indigne leur propre corps, alors qu'ils pensent y trouver du plaisir, tu vois, de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Et pourtant, c'est d'agir d'une manière déshonorante, de façon indigne, parce que le corps n'a pas été créé par Dieu au départ pour la corruption du péché sexuel. Il n'a pas été créé pour cela, bien au contraire. La sexualité était créée par Dieu, mais dans un contexte particulier, pour être, oui, une joie pour les hommes, un bonheur, mais dans un contexte particulier, celui du mariage, bien entendu. Et pour l'homme qui rejette Dieu, il est livré à toutes sortes de péchés dans ce domaine en particulier. Alors, on voit ce qu'ils ont fait au verset 25, entre autres. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont adoré et servi la création plutôt que celui qui l'a créée, lui qui est béni pour les siècles. Amen. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont remplacé la vérité de Dieu en mensonge. Et le mensonge, c'est tout ce qui est faux. Eh bien, ils avaient la révélation de Dieu, la vérité. Ils veulent le mensonge et c'est ce qu'ils ont plutôt choisi. Et là, on voit vraiment aussi le péché de l'idolâtrie. Donc, il y a l'impureté sexuelle et toute la corruption dans ce monde, dans ce domaine, je devrais dire. Et voilà maintenant aussi, il y a aussi toute la question de l'idolâtrie, adorer et servir la créature plutôt que le Dieu créateur, démontrer une révérence envers l'œuvre de ses mains. C'est complètement fou, mais c'est ce qu'on voit partout. Les hommes se prosternent devant des objets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués avec des bouts de bois et autres matériaux, quoi. Et non seulement les adorent, mais les servent aussi. Et ici, servir a le sens de rendre un culte avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup d'adoration. Ils auraient dû plutôt louer et adorer le Créateur qui lui-même, en lui-même, est un Dieu béni éternellement, c'est-à-dire digne de louange. C'est lui qui devait recevoir toute la louange. C'est le Dieu Créateur et il devait la recevoir éternellement et ce n'est pas ce qui est arrivé. On sait bien avec le rejet de Dieu. Alors, à cause de cela, maintenant, verset 26, à nouveau. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé la manière naturelle d'avoir des relations sexuelles par celle qui est contre nature. La version seconde n'est pas aussi claire, je dirais, en disant que Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Mais on peut très bien se figurer de quoi ça parle. Pour être plus direct, elles ont remplacé la manière naturelle d'avoir des relations sexuelles par une manière qui est contre nature. Bien entendu, on parle ici de l'homosexualité féminine, qui va venir d'ailleurs en premier dans la liste de Paul des conséquences et des péchés. Tu vois, il place d'abord l'homosexualité féminine. Je me suis souvent demandé si ce n'était pas intentionnel parce que les hommes ont tendance à considérer l'homosexualité entre deux femmes comme étant moins grave ou moins laid, si je peux dire moins laid que l'homosexualité chez des hommes. Peut-être que ça rééquilibre les choses pour dire qu'aux yeux de Dieu, c'est tout aussi grave. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de joli dans des relations homosexuelles femmes. C'est contre nature, point final. Peu importe ce que le monde va en dire, on doit dire les choses comme la Bible dit les choses et la Bible déclare que c'est une conduite déshonorante qui n'est pas digne du corps de l'homme tel que Dieu l'a créé. Alors, on sait avec la philosophie d'aujourd'hui que tu vois, c'est tout à fait normal dans un sens de rejeter les principes de Dieu avec le genre de conduite qu'on a. Alors maintenant, ce qui était conforme à l'ordre naturel des choses, relation sexuelle entre un homme et une femme, eh bien maintenant, c'est contre l'ordre naturel des choses et ce sont des relations sexuelles entre femmes dont Paul parle ici. Il n'y a rien d'ambigu. Et tout est clair, tout est parfaitement clair, ou bien on croit ou on ne croit pas à ce que Paul est en train de dire ici. Et n'oublions pas que ce n'est pas l'opinion d'un homme misogyne du premier siècle, comme certaines voudraient nous le faire croire, mais il s'agit d'une révélation du Dieu créateur sur la manière dont lui a créé l'homme et la femme et dont lui-même sait très bien ce qui serait le vrai bonheur de l'homme et de la femme. Bon. Les gens d'aujourd'hui sont, comme à l'époque de Paul, sont convaincus qu'ils sont très heureux dans le péché de l'homosexualité, que c'est tout à fait normal, c'est comme ça, voilà. Mais on voit que c'est contre nature et que c'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Et je crois que ça doit faire trembler des gens de savoir cela. Bien entendu, il faut qu'ils aient un minimum de crainte de Dieu dans leur cœur pour trembler en entendant un tel jugement, vous voyez. Maintenant, il ne faut pas non plus que dans l'ensemble, dans notre attitude générale comme croyants, on mette tout l'accent sur ce péché-là, puis on parte en guerre contre ce péché. Ce n'est pas le point du tout. Ici, Paul est en train de dire, voici ce qui arrive quand des hommes et des femmes rejettent l'ordre créationnel naturel de l'homme et de la femme, quand ils tombent dans le péché sexuel et l'idolâtrie, voici ce qui arrive. Ils sont livrés à eux-mêmes. L'apôtre Paul est pas en train de nous dire, voici, c'est le péché par excellence que vous devez vous prononcer contre. Quelqu'un qui ment toute sa vie a un sérieux problème. Il est aussi dans le péché, comme tous les autres péchés. Voilà. Mais ici, d'une façon particulière, ce péché, il est contre nature et c'est pourquoi Paul le mentionne d'une façon vraiment toute particulière. Au verset 27, et c'est le cas chez les hommes aussi, pareillement aussi les hommes, voilà comment dit le texte littéralement, laissant ou abandonnant la manière naturelle d'avoir des relations avec la femme, se sont plutôt enflammés dans leur appétit sexuel ardent les uns pour les autres, commettant l'acte honteux, mâle avec mâle, et recevant en eux-mêmes la punition qu'il fallait pour leur égarement. C'est évident que l'apôtre Paul est en train de parler de la sodomie et tout le péché sexuel homosexuel chez les mâles ici. Donc, il utilise le terme homme, mais mâle, spécifiquement dans le texte original, et dit que l'homme livré à lui-même, voilà, il est abandonné, il est livré à lui-même parce que lui-même a abandonné. C'est toute une relation de cause à effet, comme on a vu dans ce passage. Et par jugement de Dieu, l'homme est livré à lui-même, fais ce que tu veux. Il n'y a rien de plus grave comme jugement temporel sur la terre que d'être livré à soi-même par Dieu. C'est le pire jugement, à mon sens, qui peut arriver à l'homme d'une manière temporelle sur la terre. Bien entendu, On ne parle même pas encore du jugement, du grand trône blanc et de l'étang de feu à venir. Mais d'être livré à soi-même, c'est épouvantable. Et on voit les résultats catastrophiques où les hommes commettent dans leur désir d'obtenir ce qu'ils veulent eux. Hein, ils sont enflammés tellement ils veulent avoir ce qu'ils veulent. Eh bien, ils agissent de façon totalement déshonorante et c'est ce qui confirme leur égarement. Remarquez bien ce que dit Paul à la fin de ce verset 27 dans la version seconde. Ils reçoivent en eux-mêmes, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont et ce qu'ils font présentement, le salaire que méritait leur égarement. C'est complètement déshonorant. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis voilà, l'homme se détruit par ce péché. Et la destruction de la société, elle passe entre autres par le péché de l'homosexualité et aussi par le meurtre dans l'avortement. Et ce sont deux actes de liberté humaine qui détruisent complètement la société et la famille et le noyau même de la société. L'apôtre Paul n'avait pas peur des mots, croyez-moi, à cette époque, et j'assume pleinement ce qu'il dit moi-même et je suis en parfait accord avec l'Écriture à ce sujet-là. Comment ne pourrais-je pas l'être, hein, voyez-vous? Alors, puisque au verset 28, ils n'ont pas approuvé d'avoir Dieu avec une pleine connaissance, Dieu les a livrés, à, voilà, à nouveau, à une intelligence réprouvée pour faire les choses qui ne sont pas appropriées. Ils n'ont pas approuvé d'avoir Dieu en pleine connaissance. La version seconde, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. En fait, ce texte est en train de dire que ils ont tiré des conclusions sur Dieu, mais sans lui accorder aucune valeur. Alors pour eux, Dieu n'avait aucune valeur. Ils ont examiné qui est Dieu dans la création. Ils ont, pardon, examiné qui il est dans sa révélation des Écritures. Et malgré tout, ils ne se sont pas souciés de le connaître. Les hommes ne veulent tout simplement pas connaître Dieu. Voilà pourquoi ils sont livrés à une intelligence, c'est-à-dire une manière de voir les choses qui va influencer l'attitude qui est réprouvée. Ce mot-là voulait dire à l'époque, tu ne passes pas le test, tu échoues. Donc, une intelligence réprouvée, c'est une manière de voir les choses qui échouent, qui est pervertie, qui est fausse, qui est désapprouvée. Et ça inclut toute l'attitude qui vient avec. Voyez-vous à quel point le jugement de Dieu est sévère ici? Ils sont manifestement dans un état de révolte contre Dieu et tout leur caractère et leurs œuvres le confirment. Regardez le verset 29. Tout ce qui nous est dit, même jusqu'au plus tard, hein, on voit aussi verset 30 et jusqu'à 31 et même au-delà, on voit tout plein d'adjectifs qui qualifient l'homme livré à lui-même qui rejette Dieu. Voilà ce à quoi il ressemble. Rempli de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, c'est mauvais caractère dans la version seconde, aussi commère. Et puis là, second, et puis les autres versions, il y a comme un décalage dans les mots. Mais je continue tout simplement avec le verset 30, médisant, haïssant Dieu, insolent, orgueilleux, présomptueux, inventeur de mauvaises choses, inventeur de mauvaises choses, ingénieux au mal, dit la version seconde. Désobéissant à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, dans le 31, sans considération pour les autres, sans miséricorde. Et verset 32, qui ayant connu l'exigence de Dieu, ce que Dieu voulait, ce que Dieu exigeait, ce que Dieu demandait, qui requierait une action juste, eh bien, ceux qui pratiquent de telles choses, ils sont dignes de mort. C'est ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes. Ah, ben, non seulement ils les font, mais ils approuvent même ceux qui les font. Vous savez, ici, on voit ce que souvent dans la doctrine calviniste, on appelle la totale dépravation de l'homme. Le point de Paul, c'est pas du tout de dire que tous les hommes sont tous comme ça. Ils ont tous ça, chaque homme. Le point est simplement de montrer dans ce texte-là que Dans l'humanité, voici ce qu'on trouve. C'est tout ce qu'on trouve dans l'humanité. C'est vrai que chez certains, il n'y aura pas nécessairement l'idolâtrie ou le péché d'homosexualité, ou alors il n'y aura pas d'injustice particulière, de meurtre, hein, par exemple. C'est vrai, mais on trouve tous ces péchés dans l'humanité et le cœur de l'homme est capable de toutes ces choses, même s'il ne les commet pas. Pas. Le point de Paul est de montrer simplement à quel point l'homme est coupable de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. C'est pourquoi il dira plus tard, hein, dans sa conclusion du chapitre 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche vraiment Dieu de manière à sincèrement vouloir le trouver, mais pas du tout. Ça n'arrive pas comme ça. Si je fais quelques commentaires brefs sur les mots qui sont utilisés dans les versets 29 à 32, d'abord, on voit le verbe rempli. Hein, ça, c'est très important. Ils sont remplis. Ce terme-là veut dire que tu es totalement imprégné de quelque chose. Donc, c'est dans la nature humaine pécheresse d'avoir tous ces péchés et de les manifester aussi. On connaît le sens de la plupart de ces termes-là. Beaucoup se rapportent au mal moral, par exemple, des querelles, des mauvaises conduites les uns envers les autres, de la tricherie avec la ruse, là. Et le mot ruse implique d'ailleurs d'abuser de quelqu'un, de l'exploiter par des moyens détournés. Alors, c'est vrai que ce sont des mots qui insistent beaucoup sur tout ce qu'il y a de mauvais dans le cœur et aussi dans les actions, sans aller plus loin pour expliquer tous les mots, parce que le temps nous manquerait. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est la conclusion, le verset 32, hein, qui disent, ils connaissent le jugement de Dieu. Je me suis demandé, mais de quel jugement il parle exactement? Mais en réalité, ce n'est pas un jugement comme on l'entend dans le sens prononcer la condamnation et tomber le verdict, etc. Le mot jugement ici a plutôt le sens d'une exigence. Ils savent ce que Dieu exige. Ils ont connu l'exigence de Dieu. Ils ont connu ce que Dieu requiert. Quelles actions justes on aurait dû démontrer et manifester. Mais visiblement, hein, dans ce qu'on voit même dans notre culture, même s'ils savent que Dieu demande et exige la sainteté, la justice, par exemple, les valeurs éthiques qui sont en accord avec sa propre nature, eh bien, non seulement ils rejettent ça, mais ils déclarent les autres coupables alors qu'ils le font eux-mêmes, puis ils approuvent ceux qui les font en bout de ligne. Et donc, tu te retrouves dans une drôle d'attitude, de culture, de mentalité. Les hommes se condamnent eux-mêmes et pourtant pratiquent les mêmes choses et approuvent d'autres qui font les mêmes choses. Et ça montre à quel point l'homme est coupable. Tu sais, quand je finis cette portion-là dans ma lecture, je me dis, c'est comme si les portes de la salle du tribunal étaient closes, mais verrouillées avec des cadenas et des chaînes, et il n'y a personne qui peut sortir. Vous pouvez tourner en rond dans la salle si vous voulez, courir comme des fous à travers les chaises là, dans la salle de tribunal. Vous n'en sortirez pas innocent, ce n'est pas possible. C'est impossible parce que vous faites ce mal, vous approuvez ceux qui le font, même si vous le désapprouver dans une certaine mesure aussi. Alors, c'est tellement incohérent. C'est peut-être la conclusion la plus sensée dans ce passage, l'incohérence. Alors, voilà où se termine cette partie et dans la dernière section qui va nous préoccuper, c'est la section qui couvre chapitre 2, les versets 1 à 11. Parce que la fin nous amène vraiment à cette direction, c'est-à-dire le fameux moraliste là, qui dit que les autres sont coupables et qui les condamne, mais qui pourtant fait exactement les mêmes choses et même approuve ceux qui les font. Donc, il joue sur deux faces et puis il est hypocrite finalement. Mais ce qui le caractérise d'une façon toute particulière, c'est que le moraliste. Et puis, tu sais, le moraliste, on en voit beaucoup, hein, même s'ils n'ont aucune valeur éthique, aucune croyance en Dieu, ils jouent les moralistes. Et quand ça leur plaît, Et dans les discours qui va leur rapporter quelque chose, ils jouent les moralistes, mais on sait très bien qu'ils n'ont pas de morale en bout de ligne. Eh bien, il est aussi coupable parce qu'il refuse de se repentir. Et ça, c'est le point principal qu'on a dans ce passage. Lisons chacun des versets de chapitre 2, versets 1 à 11, un à la fois, et je commence au verset 1. C'est pourquoi tu es sans excuse, ô homme quelconque qui juge. Car dans ce que tu juges l'autre, tu te condamnes toi-même. Car toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses sans excuse. À nouveau, c'est l'impossibilité de se justifier, et surtout pas une personne comme celle-là. Avez-vous remarqué comment la Bible emploie de temps à autre cette exclamation « Oh! » comme ici « Oh, homme! » Et souvent, je me demande, c'était quoi le ton exactement? Il devait y avoir une certaine ironie, hein, parce que parfois c'est une exclamation de contemplation, d'étonnement, d'admiration. Oh, wow! Un peu dans le genre, OK? Mais là, ici, ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus avec un ton de reproche, un ton de oh, homme, que tu peux être stupide, c'est pas possible. Je vois un peu ce ton-là. Enfin, c'est la façon dont je ressens le passage. Mais certainement qu'il y a une certaine notion d'approche en fait, de reproche dans ce haut-là. Et l'homme qui juge, eh bien, c'est celui qui ose déclarer les autres coupables de quelque chose, alors qu'il se condamne lui-même parce qu'il fait exactement les mêmes choses. Donc, le point n'est pas de dire toute la liste des péchés, des vices qu'on vient de voir, eh ben, tu les as toutes dans ta vie, quoi. Tu fais exactement toutes les mêmes choses, mais de façon générale, on voit chez tous les hommes les mêmes péchés, même chez ceux qui pointent les autres et puis qui les accusent de quoi que ce soit. Et ils ne sont pas tellement bien placés pour juger, n'est-ce pas? Ça nous fait réfléchir aussi. Ça me fait penser à un prédicateur qui disait, quand tu pointes quelqu'un comme ça, là, puis là, vous voyez bien avec ma caméra, tac, le pointe. Oublie pas que toi, tu pointes un doigt, mais tu en as trois qui sont dans ta direction. Alors, ça modère un tout petit peu l'attitude de celui qui juge les autres, c'est vrai. Et puis, c'est certainement une belle application pratique pour nous-mêmes, même si on est dans un contexte donné de prononciation de culpabilité contre l'homme en général. Mais au verset 2, même si le moraliste qui juge les autres, qui se permet de juger les autres, il se pense au-dessus et qui se pense inatteignable, eh bien, voici ce que dit Paul. Mais nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui pratiquent de telles choses. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Et puis dans la seconde, ces deux bouts de phrase-là sont quand même séparés. Moi, je crois qu'on devrait les rapprocher. Il est selon la vérité, c'est-à-dire en conformité avec ce qui est juste, en accord avec les faits. Donc, c'est vrai que le réflexe, quand on voit la vérité, c'est on pense à la vérité de la parole de Dieu, de sa révélation. Ça a du sens. Il y a une certaine appartenance, un lien de rapprochement. Mais ici, le jugement de Dieu, c'est simplement qu'il est en conformité avec ce qui est juste. Il est en conformité avec les faits. Dieu, lui, n'est pas comme l'homme. Dieu, lui, quand il prononce son jugement, il est juste parce que lui, il est parfait, il est saint et il est parfaitement juste et saint. Et donc, Dieu seul peut prononcer un tel jugement, donc, contre les hommes. Vous comprenez que dans certaines situations, nous sommes aussi appelés à juger. Et même dans l'Église, il y a certaines choses qu'il faut juger. Ça fait partie même du mandat des leaders spirituels, de veiller à ce que certaines choses soient mises en jugement, quoi. Mais le point de Paul ici est simplement de dire sur la culpabilité universelle de l'homme, quel homme pourrait en juger un autre et le condamner? Quel homme pourrait dire à un autre homme, oh, toi, tu es coupable? Franchement, ben, c'est comme on disait, tu as trois doigts qui te disent hein, trois fois plus que tu l'es aussi. Hein? Voilà. Mais le problème, c'est les raisonnements, c'est la manière dont l'homme pense. Et c'est ce que Paul évoque dans le verset 3. Mais penses-tu ceci, et là, entre parenthèses, ô homme qui juge ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fait, penses-tu ceci, deux points, Toi, tu échapperas au jugement de Dieu. Penses-tu que parce que toi, tu juges les autres, il n'y aura pas de souci, hein? Je vais éviter le jugement de Dieu. Échapper a le sens de éviter. Non, moi, je vais prendre une voie de contournement. Je vais éviter le jugement. Dieu est en train de dire ici à tous les hommes qu'ils ont beau penser ce qu'ils veulent, et penser ici a le sens d'avoir sa propre opinion à propos de quelque chose. Et c'est exactement aussi ce qu'on voit dans notre culture. Les hommes pensent comme ils pensent, puis on dit, ben, c'est comme ça que je pense, alors voilà, t'as rien à dire. Mais dans les raisonnements des hommes, quand on les confronte à la parole de Dieu et à ce que Dieu dit, ah, qui peut tenir, hein? Eh bien, personne, c'est une question rhétorique, ça, personne ne va échapper au jugement de Dieu, et surtout pas le moraliste qui s'imagine qu'il est meilleur que les autres. Il ne va pas échapper au jugement de Dieu. Le problème de l'homme moraliste et même l'homme coupable, hein, de l'homme en général, il se trompe dans ses faux raisonnements, il est livré à lui-même et il méprise beaucoup la grandeur et la bonté, la beauté de Dieu. Regardez le verset 4. Où méprises-tu? Hein, ça débute avec où méprises-tu? Dans le fond, il fait deux choses. Dans le verset 3, penses-tu que tu vas échapper? Où méprises-tu? Voilà le sens de ce où. Où méprises-tu la richesse de sa bienfaisance et de sa tolérance? Tolérance, hyper important ce mot. Et de sa patience, lui aussi. Ignorant que la bonté de Dieu te conduit à la repentance. Je vais lire la version seconde. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le sens de mépriser dans ce passage, c'est comme de regarder quelque chose avec aversion. C'est de ne lui accorder aucune attention. C'est qu'on s'en fiche totalement. On veut rien savoir. Ça ne nous intéresse pas du tout. Mais regardez comment est-ce qu'on peut mépriser la richesse de la bienfaisance ou bonté de Dieu, de sa patience ou tolérance, etc. Comment on peut faire ça? Le mot richesse, quand il est employé au sens figuré, parle d'abondance. La bonté de Dieu, elle est tellement, mais tellement abondante. Comment peux-tu mépriser l'abondance de la bonté de Dieu? Toute cette bienfaisance ou le mot bonté parle de tout ce qui est bénéfique et inclut, d'une manière particulière, hein, parce que les mots grecs sont assez différents dans ce passage. Il inclut le secours de Dieu et la générosité de Dieu. Autrement dit, l'homme est clairement exposé à la générosité, au secours de Dieu, à sa bonté abondante et la méprise, la traite comme si c'était rien du tout, rien du tout. Les gens, est-ce qu'ils font ça vraiment consciemment? Certains, oui, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le point n'est pas de se demander, et puis Paul n'argumente pas là-dessus en disant, ah, oh, mais écoute, ils ne sont pas trop conscients, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Tu vois, là, ce n'est pas le point de Paul. Le point de Paul, c'est de dire, par leur comportement, par leur rejet de Dieu, voilà comment Dieu voit les choses. N'oubliez pas que ce chapitre, en fait, cette section de 1,18, pardon, à 3,20, c'est comment Dieu, en tant que juge parfait, voit l'humanité, voit le péché et se prononce. Donc, il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à dire. On ne pourrait pas essayer de délibérer la question puis dire, ouais, mais en bout de ligne, là, ce n'est pas tellement leur faute, mais pas du tout. L'homme est coupable, point final. Et la repentance, c'est d'accepter ce verdict. Moi, j'ai entendu une fois un prédicateur, à la radio, hein. Il faisait un message et puis il a dit, voici la définition de la repentance, c'est d'accepter le verdict de Dieu sur notre cœur. Accepter le verdict de Dieu sur nous-mêmes. Nous sommes pécheurs, point final. La repentance, c'est j'accepte cela. Et quand j'accepte cela, j'ai tout le secours pour être sauvé qui vient jusqu'à moi. Mais c'est dans l'homme de mépriser la richesse de sa bonté. Et là, on va regarder les mots parce qu'ils ont un sens assez différent. J'aurais peut-être dû mettre la Darby aussi en. Je n'ai pas les trois versions sous les yeux, mais vous pourrez comparer. Donc, il y a premièrement la richesse de sa bienfaisance ou bonté. Ça dit essentiellement la même chose. Mais ensuite, on a le mot patience dans la Bible second. Mais en grec, c'est le mot tolérance qui est là. C'est anoché. Et ce mot-là signifie une trêve. Une trêve, c'est une suspension de colère. Et dans ce passage, Dieu suspend sa colère tellement souvent. Les hommes sont livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est une révélation de sa colère. Mais la colère de Dieu qui tombe là, où les hommes meurent sous le jugement de Dieu, c'est une trêve. Bon, il y a des exceptions. Sodome et Gomorre, ils ont payé très cher parce qu'il n'y a pas eu de trêve. Il n'y a pas eu de suspension de colère. Le feu du ciel est tombé, bang, et puis ils sont brûlés, ils sont morts à Sodome et Gomorre. Il y a eu des jugements comme ça, temporels, et puis je dirais peut-être même local, si je peux dire. Oui, et certainement que ça doit arriver encore quelque part. Probablement que Dieu est à l'œuvre parfois, puis il met un frein à beaucoup de péchés par peut-être une catastrophe naturelle ou par autre chose. Mais quoi qu'il en soit, Dieu, dans sa souveraineté, parfois juge, mais de manière générale, Dieu est en trêve. Il est en suspension de colère. Et ce mot-là va revenir au chapitre 3. Et ce n'est pas moi qui aurai le privilège d'en parler, mais je suis persuadé que le prochain, bon là, je lui mets de la pression déjà, mais le prochain qui va parler sur cette section, il va parler de la tolérance de Dieu, de sa tolérance, de sa suspension de colère jusqu'à ce que Jésus arrive. Et là, il n'y a plus de suspension. Pourquoi? Parce qu'elle tombe sur Jésus. Bang! Et voilà pourquoi, lorsque Dieu était en trêve, au temps de sa patience, comme la version seconde disait, sa colère était suspendue. Ben, voilà ce que signifie le terme ici. Ensuite, on a longanimité dans la seconde. C'est le troisième terme, hein, si vous me suivez dans une autre version. Et là, on devrait mettre patience parce qu'on parle bien de la patience à l'égard des autres. C'est cette patience-là dit reste tranquille en attendant le dénouement. Donc, tu es patient envers des personnes. Ça, c'est la patience dont il parle ici. Dieu est patient envers les gens, des gens qui le rejettent, qui le méprisent, qui se moquent de lui. Dieu est patient avec ce qui s'est passé à Paris, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques? Dieu a été patient envers les gens, parce qu'il est en suspension de colère, parce que son fils est toujours là et son offrande est toujours actuelle. Mais un jour, cette colère va finir par tomber. Elle va tomber. Alors, pourquoi mépriser cette patience maintenant? Est-ce parce que, comme Paul le dit au verset 4, tu ignores la bonté de Dieu qui te conduit ou te pousse à la repentance? Le verbe ignorer ici, est-ce je n'ai pas la connaissance? Pas du tout. C'est une ignorance volontaire. C'est un refus d'admettre quelque chose. Tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas voir que Dieu est bon. Donc, ignorant ici est pleinement responsable et pleinement volontaire. Ce n'est pas quelque chose que tu ne sais pas. Et donc, que tu ne pourrais pas être jugé parce que tu ne sais pas. Tu l'ignores volontairement. Tu veux rien savoir, en fin de compte. Et pourtant, cette bonté de Dieu pousse à la repentance, à un changement profond dans le cœur, hein, de reconnaître son état de pécheur, d'abandonner le péché et de recevoir le pardon de Dieu. Voilà la repentance. Je reconnais et j'accepte le verdict de Dieu sur moi. Je suis un pécheur. J'abandonne le péché. Je me tourne et je me lance vers Dieu pour recevoir son pardon. Ben, ce n'est pas du tout ce que l'homme veut faire. Mais, verset 5, contrairement à cela, selon la dureté ou ta dureté et ton cœur sans repentance, qu'est-ce que l'homme fait? Il s'amasse pour lui-même une colère, pardon, dans le jour de la colère. C'est fou comment c'est dit. La version seconde dit, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Mais c'est vraiment ce que tu fais. Tu es en train de littéralement te thésauriser. Tu te fais un trésor de colère. Toi, ton coffre au trésor, tu vas l'ouvrir, c'est la colère. Bravo. C'est tout un trésor que tu es en train de t'accumuler. C'est ça que Paul il disait, parce qu'il voulait faire prendre conscience à l'homme pécheur que par toutes ses actions et son dureté de cœur, il était en train de rejeter Dieu et s'amasser une colère. Tu vois qu'on pourrait même traduire amasser par Faire une collection. Hein, vous savez, c'est quoi? Plusieurs, faites une collection. Hein, vous aimez collectionner des choses. Imaginez collectionner la colère de Dieu. Ça n'a aucun sens. Ça dépasse l'entendement. Collectionner la colère de Dieu. On l'accumule, cette colère-là, sur nous-mêmes. En fait, l'homme pécheur qui fait cela, il est en train de se concocter lui-même tout un jugement pour le grand trône blanc à venir. Et c'est horrible. Voilà pourquoi on a la responsabilité de non seulement prêcher la bonne nouvelle de Jésus, mais dites-leur avant qu'ils sont pécheurs. Si vous passez par-dessus cette étape, vous éliminez Romains 1, 2, 3, et puis vous allez directement à la justification. Mais comment tu peux expliquer à quelqu'un qu'il peut être justifié sans qu'il ait pris conscience qu'il est d'abord un pécheur? Ça, c'est l'Évangile. Le vrai Évangile dit à l'homme d'abord pécheur, condamné et sous la colère de Dieu en vue du grand trône blanc. Voilà, et c'est le message de l'Évangile que Paul explique. Et ce jugement-là sera juste, hein, parce qu'au verset 6, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et ce terme-là met autant l'accent sur l'action de faire des œuvres que sur le résultat. Tout cela va être jugé au grand trône blanc. Et d'ailleurs, avez-vous déjà remarqué dans le livre de l'Apocalypse que quand ce jugement arrive, ce sont des livres qui sont ouverts. Et qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Les œuvres. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres, mais on est jugé par les œuvres. C'est pourquoi le jugement sera différent d'une personne à l'autre, hein, à des degrés de condamnation très différents. Donc, il y en a qui vont souffrir plus que d'autres, ça, il n'y a aucun doute, parce que le jugement sera selon les œuvres. Dieu est juste. Dieu est juste et il va juger les hommes selon leurs propres œuvres. Regardez maintenant ces deux versets qui font un contraste entre, je dirais, ce qui vient pour l'homme qui s'est repenti et pour celui qui a persévéré dans son mépris de la bonté de Dieu qui le poussait à la repentance. Voici ce qui arrivera. À ceux qui, par la persévérance d'une bonne œuvre, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, qu'est-ce qu'il y aura? La vie éternelle. La version seconde a inversé tous les mots, hein, l'ordre des mots, mais ça dit exactement la même chose. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent à bien faire, à chercher l'honneur, la gloire, l'immortalité. Vous devez comprendre ici, ça n'a rien à voir avec un salut par les œuvres. Il n'est pas en train de dire que les gens qui font du bien vont avoir la vie éternelle. Il est en train de décrire qui sont ceux qui se sont repentis et qui ont reçu la bonté de Dieu dans le salut. Eh bien, ils font ce qui est bien. Et ils auront une fin glorieuse, très différente, parce que c'est tout l'objet de leur vie maintenant. Ils ne cherchent pas leur gloire et à satisfaire leurs appétits sexuels ou tout péché de quelconque. Ils cherchent la gloire de notre Dieu. Voilà ce qu'ils cherchent. L'honneur, l'incorruptibilité, ça c'est la marque de vrais croyants. Mais les autres qui persévèrent dans leur obéissance à l'injustice, hein, qui sont, rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Le texte dit, par ambition égoïste, ils désobéissent à la vérité. Ben oui, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils rejettent Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui les attend? Irritation et colère dans la version seconde, mais colère et fureur dans le texte original. Ce sont les deux mots qui existent en grec, orgueil, Kai thumos. Et ces deux termes-là veulent dire, orgueil et thumos, colère, fureur, et fureur est un degré plus intense que la colère encore. Et dans l'Apocalypse, c'est hallucinant les images quand il parle de la cuve du vin, de la fureur, de la colère de Dieu. Tous les mots sont dans la même phrase et ça montre à quel point le jugement de Dieu est juste, mais qui sera très intense, très sévère. Ce n'est pas pour rien que, lié à ce jugement, il y a au verset 9 des tribulations, de l'angoisse. Et peu importe qui tu es, juif ou grec, et ça, c'est englobe toute l'humanité, juif et non-juif. Hein? Juif et grec, c'est juif et non-juif. Donc, que tu aies été parmi le peuple de Dieu qui avait reçu les alliances ou étranger à tout cela, tu es dans la même cuve, tu es dans la même situation. Tout ce qui attend, c'est la détresse causée par toutes les souffrances du jugement de Dieu à venir, une angoisse profonde, des circonstances pénibles à endurer. C'est ce qu'on appelle communément l'enfer. Eh bien, ça va être terrible, mais terrible pour ceux qui persistent à rejeter Dieu. Mais pour ceux qui se repentent, pour ceux qui reconnaissent sa bonté, sa justice, qui se tournent vers lui dans la repentance, qu'est-ce qu'il y aura dans le verset 10? Gloire, honneur, paix. Ils pratiquent le bien parce qu'ils sont sauvés. Et ça, c'est vrai aussi pour toute l'humanité, que tu sois juif premièrement ou grec, eh bien, ce sera pour chacun qui se sera tourné vers le Seigneur dans la foi et la repentance. Et pourquoi c'est comme ça, que ce soit pour le juif comme le non-juif, c'est le dernier verset de notre section, parce qu'il n'y a pas de favoritisme auprès de Dieu. Dieu offre la repentance et sa bonté et sa justice aux hommes, mais tous ceux qui persévèrent à la rejeter, eh bien, ils seront jugés. Et tous ceux qui se tournent par la foi dans la repentance vers Dieu, ils seront sauvés. Voilà ce qu'enseigne cette section pour ce soir. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, pour être fidèle à l'horaire et ne pas dépasser, c'est maintenant le temps pour terminer avec une période de questions.
Merci Gilles pour l'exposé de cette deuxième partie ce soir. Effectivement, quelques questions intéressantes qu'on va traiter. Certaines, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, donc certaines, on tâche d'y répondre par écrit, et puis d'autres, on les prend par oral. Je ne comprends pas comment on peut dire que la sexualité débridée est un jugement de Dieu. Je comprends que dans leur idolâtrie, Dieu a abandonné les hommes, dans leur immoralité sexuelle, révélant alors le cœur pécheur de l'homme. Mais en quoi peut-on dire que l'immoralité sexuelle est un jugement de Dieu?
Ben, exactement dans la phrase que tu as lue, je présume, dans le email juste précédemment, c'est que par le rejet de Dieu, l'homme est livré à lui-même. Et donc, livré à lui-même, c'est-à-dire livré à tous ses penchants mauvais de son cœur. L'un des penchants les plus mis de l'avant par Paul, je dirais, dans ce passage, est le péché de l'immoralité sexuelle, de l'inconduite sexuelle au niveau de l'homosexualité. Et donc, dans un sens, l'homosexualité, dans ce passage, est clairement un jugement de Dieu qui livre l'homme à lui-même et à ses penchants qu'il a dans son cœur parce qu'il rejette l'ordre créationnel, parce qu'il rejette l'ordre naturel des choses, il se tourne vers lui-même et ses propres raisonnements et ses propres passions mauvaises, ce qui l'amène à aboutir dans cette conduite.
Pour ce qui concerne encore l'une ou l'autre question, dans le verset 28 du premier chapitre, on a cette expression livrée à un esprit réprouvé. Une personne demande si cela peut signifier que on verrait là une influence démoniaque, être sous influence démoniaque. Un esprit réprouvé.
Un esprit réprouvé. Je reprends le verset 28. Oui, Dieu les a livrés à une, littéralement, hein, c'est Dieu les a livrés à une intelligence réprouvée. Alors ici, a priori, ce n'est pas un mauvais esprit, ce n'est pas le point, parce que l'intelligence, c'est une manière pour l'homme de voir les choses et qui vont influencer son attitude. Alors, à nouveau, c'est une autre façon de dire que Dieu livre l'homme à lui-même, et bien entendu que la vision de l'homme qui rejette Dieu n'est pas du tout conforme à ce qui est juste, à ce qui est approuvé. Donc, ce sera plutôt réprouvé, et comme je l'ai mentionné, ce terme-là signifie tu ne passes pas le test, quoi. C'est quelque chose qui est perverti, qui est faux, qui est désapprouvé. Donc, t'es pas forcément, dans ce passage, c'est pas une référence à être livré à des mauvais esprits. C'est bien plutôt d'être simplement livré à sa propre attitude et à sa propre façon de voir qui est incorrecte, qui est faussée.
Merci aussi pour cette réponse. Une question intéressante Concernant ce que tu as dit, où il y avait une gradation dans la souffrance éternelle qui serait liée à la gravité du péché. Un de nos auditeurs ce soir s'étonne de cela, puisqu'il dit, j'ai toujours entendu qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de gradation de péché. Donc, selon ma compréhension, tout homme rebelle sera jugé à la mort éternelle, quelle que soit la gravité de son péché. Qu'est-ce que tu peux apporter comme élément à ce sujet?
Non, les péchés, à mon sens, ce n'est pas vrai qu'ils sont tous égaux aux yeux de Dieu. Et si oui, c'est simplement en ce sens que tous les péchés lui sont désagréables et sont une offense à sa sainteté. Ça, il n'y a aucun doute. Mais quand on parle du péché et de sa gravité et de ses conséquences, il y a clairement une différence dans les Écritures. D'ailleurs, par exemple, le péché de Sodome et Gomorre était l'homosexualité en particulier, voilà, c'est très connu d'ailleurs, le terme sodomie, qui est la pratique homosexuellement, et vient et tiré de nom de cette ville, de vétérotestamentaire. Eh bien, il y a eu ce péché là-bas, mais à Chorazim et Bethsaïda, deux villes où Jésus a manifesté sa divinité, sa messianité, il a accompli des miracles, eh bien, les gens lui ont simplement dit, va-t'en. Part d'ici, on n'en veut pas. Voilà, ils ont rejeté son témoignage. Eh bien, Jésus déclare que ces gens-là seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorre. Et en disant cela, le Seigneur indique très clairement que les conséquences du péché de Chorazim et Bethsaïda étaient beaucoup plus graves que celles de Sodome et de Gomorre. Et c'est vrai que la gravité du péché, elle est aussi liée directement à la mesure de révélation que Dieu donne. Les gens de Sodome et Gomorre étaient dans un péché horrible contre nature, mais leur connaissance de Dieu était beaucoup moindre que celle des villes où Jésus a vécu. Et a fait beaucoup de miracles et a confirmé son identité. Donc là, ils avaient une responsabilité beaucoup plus grande. On pourrait encore parler de la différence entre blasphémer Jésus lui-même et blasphémer le Saint-Esprit. Les deux sont différents. L'un est pardonné, l'autre pas. Donc c'est évident qu'il y a dans les Écritures un niveau de gravité différent. Maintenant, ce qui relie tous les péchés ensemble, c'est qu'ils sont tous des offenses contre Dieu et ils rencontrent tous cette définition d'avoir manqué le but, manqué la cible. Mais c'est évident que tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences, ni ici-bas, temporellement, sur la terre, comme non plus au jugement du grand trône blanc à venir.
Merci Gilles pour cette explication. Je crois qu'on a traité les principales questions, donc je vais pouvoir conclure cette soirée.